Journal d'un écrivain, 1876, avril. Chapitre 1. Quelques mots sur des questions politiques. Tout le monde parle des questions politiques du jour. Tout le monde s'y intéresse. Et peut-on s'en désintéresser? Un homme très sérieux que j'ai rencontré par hasard m'a demandé le plus gravement du monde. « Eh bien, aurons-nous la guerre? Ne l'aurons-nous pas ?» Je suis demeuré un peu étonné. Bien que, comme tout le monde, je suive avec intérêt les événements, j'avoue que je ne me suis jamais demandé si la guerre était inévitable ou non. Il paraîtrait que j'ai eu raison. Tous les journaux annoncent l'entrevue prochaine à Berlin des trois chanceliers, et sans doute l'interminable affaire d'Herzégovine recevra une solution satisfaisante pour le sentiment russe. Du reste, je n'ai guère été troublé des paroles du baron de Roditch. Elles m'ont plutôt amusé quand je les ai lues pour la première fois. Plus tard, on a fait beaucoup de bruit à leur sujet. Il me semble pourtant que ces paroles ont été dites sans intention d'offenser personne. Je ne leur ai attribué aucune portée politique. Je crois que ce baron a tout simplement un peu radoté quand il a parlé de l'impuissance de la Russie. Il a dû songer en lui-même « Si nous sommes plus forts que la Russie, cela veut dire que la Russie n'est guère solide. Nous sommes plus forts qu'elle parce que Berlin ne nous laissera jamais à la discrétion de la Russie. Berlin admettra peut-être que nous nous mesurions avec l'Empire russe pour se rendre compte des ressources des deux belligérants, mais si notre antagoniste nous sert de trop près, Berlin lui dira « Halte là !» On ne nous fera pas grand mal. Et comme la Russie ne s'avisera pas de marcher à la fois contre nous et contre l'Allemagne, tout finira sans catastrophe. Si, au contraire, nous battons la Russie, nous y gagnerons beaucoup. Peu de risques et des chances de faire un joli coup. C'est ce que j'appelle de la haute politique. Berlin nous traite en amis et nous aime beaucoup parce que nos territoires allemands le font loucher. Il nous les prendra peut-être. Mais comme il a une énorme affection pour nous, il nous dédommagera en nous offrant quelque chose chez les Slaves de Turquie, par exemple. Ce n'est pas la Russie qui mettra la main sur ces Slaves, mais bien nous qui les annexerons. » Ces idées peuvent naître non seulement en M. Roditch, mais encore dans l'esprit de beaucoup d'Autrichiens. Mais des complications peuvent s'en suivre. Ainsi, dès qu'elle tiendra les Slaves, l'Autriche voudra les germaniser à outrance, même si elle a déjà perdu la plupart de ses territoires allemands. Ce qui est exact, c'est que l'Autriche n'est pas seule en Europe à vouloir croire à l'impuissance de la Russie. On veut aussi généralement que la Russie nourrisse aujourd'hui le dessein de subjuguer le plus grand nombre de Slaves possible. Or, la Russie n'agira qu'à une époque où personne en Europe ne soupçonnera ses intentions. Et c'est alors qu'une nouvelle ère s'ouvrira pour elle et pour ses voisins. On verra dès l'abord que la Russie est parfaitement désintéressée, et l'état de toute l'Europe en sera modifié. Mais jusqu'à la fin, nos voisins nous regarderont d'un œil hostile, se refusant à croire à la sincérité de nos déclarations. L'Europe n'a jamais aimé la Russie et s'en est toujours méfiée. Elle ne nous a jamais voulu compter au nombre des siens. Nous ne sommes, à son point de vue, que des nouveaux venus alarmants. C'est pourquoi il lui est si agréable de se figurer de temps à autre que la Russie est jusqu'à présent impuissante. C'est peut-être un grand bonheur pour nous que de n'avoir pas eu le dessus lors de la guerre de Crimée. Toute l'Europe, nous jugeant trop forts, se serait coalisée et aurait entrepris contre nous une lutte pour notre extermination. Divers gouvernements européens auraient ainsi trouvé un moyen d'en finir avec leurs difficultés intérieures, si bien qu'une pareille guerre leur eût été infiniment profitable sous tous les rapports. En France, par exemple, tous les partis hostiles à l'Empire se seraient réconciliés avec le régime abhorré dans le but de réaliser l'idée sacrée, laquelle consiste à vouloir jeter les Russes hors de l'Europe. la guerre serait devenue nationale de ce côté-là. Mais le sort nous a protégés en donnant la victoire à l'Europe, tout en laissant intact notre honneur militaire. Si bien que la défaite ne nous a pas paru trop dure à supporter. La victoire nous eût coûté bien plus cher. Déjà, une fois, le sort nous avait sauvés d'une façon analogue, à l'époque où nous voulûmes libérer l'Europe du joug de Napoléon. Il nous donna la Prusse et l'Autriche comme alliés. Si nous avions vaincu seuls, l'Europe, à peine revenue à elle après la chute de Napoléon, se serait jetée sur nous. Grâce à Dieu, la Prusse et l'Autriche, que nous avons délivrées, se sont attribuées tout l'honneur des victoires, à tel point qu'elles se vantent aujourd'hui d'avoir seules abattu le tyran, malgré l'opposition de la Russie. Il serait toujours très dangereux de vaincre en Europe. Notre conquête du Caucase, notre triomphe sur les Turcs, du temps du défunt empereur, tout cela, on nous le pardonne. On nous a pardonné aussi notre action en Pologne, bien qu'une guerre générale ait failli éclater à ce sujet. On nous pardonne encore nos annexions dans l'Asie centrale. Quoiqu'elles aient produit un effet détestable, on considère cela comme des guerres privées. Néanmoins, les sentiments de l'Europe vis-à-vis de la Russie devront changer bientôt. Dans mon carnet de mars, j'exposais quelques vues sur l'Europe, et il me semblait certain qu'avant peu, la Russie serait la plus forte de toutes les puissances européennes. Je n'ai pas changé d'avis. Toutes les autres grandes puissances disparaîtront, et la cause en est très simple. Elles seront épuisées par la lutte qu'elles auront à soutenir contre leurs prolétaires. En Russie, il n'en sera pas de même. Le bonhomme Demos est content. Il sera de plus en plus satisfait, de plus en plus uni. Un seul colosse demeurera sur le continent européen, la Russie. Et cela peut arriver bien plus tôt qu'on ne croit. L'avenir, en Europe, appartient à la Russie. Mais une question surgit. Que fera alors la Russie en Europe? Quel rôle y jouera-t-elle? Est-elle prête à ce rôle? Chapitre 2. Un homme paradoxal. Puisque nous parlons de la guerre, il faut que je vous entretienne de quelques opinions de l'un de mes amis qui est un homme à paradoxe. Il est des moins connus, son caractère est étrange, c'est un rêveur. Plus tard, j'entrerai dans plus de détails à son sujet. Quant à présent, je ne veux me rappeler qu'une conversation que j'eus avec lui, il y a déjà quelques années. Il défendait la guerre, en général, peut-être uniquement par amour du paradoxe. Notez que c'est un parfait Pékin, l'homme du monde le plus pacifique, le plus indifférent aux haines internationales ou simplement interpétersbourgeoise. C'est s'exprimer en sauvage, dit-il entre autres choses, qu'affirmer que la guerre est un fléau pour l'humanité. Tout au contraire, c'est ce qui peut lui être le plus utile. Il n'y a qu'une sorte de guerre vraiment déplorable, c'est la guerre civile. Elle décompose l'État, dure toujours trop longtemps et abrutit le peuple pour des siècles entiers. Mais la guerre internationale est excellente sous tous les rapports. Elle est indispensable. Que voyez-vous d'indispensable dans ce fait que deux peuples se jettent l'un sur l'autre pour s'entretuer? Tout, absolument tout. D'abord, il n'est pas vrai que les combattants se jettent les uns sur les autres pour s'entretuer, ou du moins, telle n'est pas leur première intention. Tout d'abord, ils font le sacrifice de leur propre vie. Voilà ce qu'il faut considérer avant tout. Et rien n'est si beau que de donner sa vie pour défendre ses frères et la patrie, ou tout simplement les intérêts de cette patrie. L'humanité ne peut vivre sans idées généreuses, et c'est pour cela qu'elle aime la guerre. Vous croyez donc que l'humanité aime la guerre? Bien certainement. Qui se désespère? Qui se lamente pendant une guerre? Personne. Chacun devient plus courageux, se sent l'âme plus haute. On secoue l'apathie coutumière, on ne connaît plus l'ennui. L'ennui, c'est bon en temps de paix. Quand la guerre est finie, on aime à se la rappeler. Se fut-elle achevée sur une défaite? Ne croyez pas à la sincérité de ceux qui, la guerre déclarée, s'abordent en gémissant « Quel malheur !» Ils parlent par respect humain. La joie, en réalité, règne dans toutes les âmes, mais on n'ose pas l'avouer. On a peur de passer pour un rétrograde. Personne n'ose louer, exalter la guerre. Mais vous me parliez des idées généreuses de l'humanité. Ne voyez-vous pas d'idées généreuses en dehors de la guerre? Il me semble qu'on peut en acquérir davantage en temps de paix. Pas du tout. La générosité disparaît des âmes lors des périodes de longue paix. On ne constate plus que cynisme, indifférence et ennui. On peut dire qu'une longue paix rend les hommes féroces. C'est toujours ce qu'il y a de plus mauvais chez l'homme qui domine à ces époques-là. Tenez, la richesse, le capital, par exemple. Après une guerre, on estime encore le désintéressement, l'amour de l'humanité. Mais que la paix dure et ses beaux sentiments disparaissent. Les riches, les accapareurs sont les maîtres. Il n'y a plus que l'hypocrisie de l'honneur, du dévouement, de l'esprit de sacrifice. Vertu que les cyniques eux-mêmes sont contraints de respecter, au moins en apparence. Une longue paix produit l'aveulerie, la bassesse de pensée, la corruption. Elle émousse tous les beaux sentiments. Les plaisirs deviennent plus grossiers aux époques pacifiques. On ne songe plus qu'aux satisfactions de la chair. La volupté produit la lubricité, la férocité. Et vous ne pouvez nier qu'après une paix trop durable, la richesse brutale opprime tout. Mais voyons, les sciences et les arts peuvent-ils se développer au cours d'une guerre? Et ce sont, je le crois, les manifestations de pensées généreuses. Voici où je vous arrête. La science et l'art sont surtout florissants dans les premiers temps qui suivent une guerre. La guerre rajeunit, rafraîchit tout, donne de la force aux pensées. L'art tombe toujours très bas après une longue paix. S'il n'y avait pas de guerre, c'en serait fait de l'art. Les plus belles pensées d'art sont toujours inspirées par des idées de lutte. Lisez l'Horace de Corneille. Voyez l'Apollon du Belvédère terrassant le monstre. Et les madones? Et le christianisme? Le christianisme lui-même admet la guerre. Il prophétise que le glaive ne disparaîtra jamais de ce monde. Oh, sans doute, il nie la guerre à un point de vue sublime en exigeant l'amour fraternel. Je me réjouirais tout le premier si du fer des glaives on forgeait jamais des charrues. Mais la question se pose, quand cela pourra-t-il avoir lieu? L'état actuel du monde est pire que toute guerre. La richesse, le besoin de jouir font naître la paresse qui crée l'esclavage. Pour retenir les esclaves dans leurs basses conditions, il faut leur refuser toute instruction, car l'instruction développerait le besoin de liberté. J'ajouterai encore que la paix proclamée favorise la lâcheté et la malhonnêteté. L'homme, par nature, est lâche et improbe. Mais que deviendra la science si les savants sont pris de jalousie pour ce qui les entoure? La jalousie est une passion basse et ignoble, mais elle peut atteindre l'âme du savant lui-même. Et comparez au triomphe de la richesse ce que peut donner une découverte scientifique quelconque, la découverte de la planète Neptune, par exemple. Restera-t-il beaucoup de vrais savants, de travailleurs désintéressés dans ces conditions? Ils seront pris de velléité de gloire, le charlatanisme apparaîtra dans la science, et avant tout, l'utilitarisme. Parce que chacun d'eux aura soif de richesse. Il en sera de même en art. On ne recherchera plus que les faits. On en viendra à l'extrême raffinement qui n'est que l'exagération de la grossièreté. Voilà pourquoi la guerre est chère à l'humanité, qui sent qu'elle est un remède. La guerre, mais elle développe l'esprit de fraternité et unit les peuples.
Comment voulez-vous qu'elle unisse les peuples ?
En les forçant à s'estimer mutuellement. La fraternité naît sur les champs de bataille. La guerre pousse bien moins à la méchanceté que la paix. Voyez jusqu'où va la perfidie des diplomates aux époques pacifiques. Les querelles déloyales et sournoises du genre de celles que nous cherchait l'Europe en 1863 font bien plus de mal qu'une lutte franche. Avons-nous haï les Français et les Anglais pendant la guerre de Crimée? Pas le moins du monde. C'est alors qu'ils nous devinrent familiers. Nous étions préoccupés de leur opinion sur notre bravoure. Nous choyons ceux des leurs que nous faisions prisonniers. Nos soldats et nos officiers se rencontraient aux avant-postes avec leurs officiers et leurs soldats, et c'est tout juste si les ennemis ne s'embrassaient pas. On trinquait ensemble, on fraternisait. On était ravis de lire ces choses dans les journaux, ce qui n'empêchait pas la Russie de se battre superbement. L'esprit chevaleresque prit un magnifique essor. Et qu'on ne vienne pas nous parler des pertes matérielles qui résultent d'une guerre. Tout le monde sait qu'après une guerre, toutes les forces renaissent. La puissance économique du pays devient 10 fois plus grande. C'est comme si une pluie d'orage avait fertilisé, en la rafraîchissant, une terre desséchée. Le public s'empresse de venir au secours des victimes d'une guerre, tandis qu'en temps de paix, des provinces entières peuvent mourir de faim avant que nous ayons gratté le fond de nos poches pour donner 3 roubles.
Mais le peuple, surtout, ne souffre-t-il pas pendant une guerre? N'est-ce pas lui qui supporte toutes les ruines, alors que les classes supérieures de la société ne s'aperçoivent pas de grand-chose?
Ce n'est que temporairement. Il y gagne beaucoup plus qu'il n'y perd. C'est pour le peuple que la guerre a les meilleures conséquences. La guerre égalise tout pendant le combat et unit le serviteur et le maître en cette manifestation suprême de la dignité humaine, le sacrifice de la vie pour l'œuvre commune, pour tous, pour la patrie. Croyez-vous que la masse la plus obscure des moujiks ne sente pas le besoin de manifester de façon active des sentiments généreux? Comment prouvera-t-elle, pendant la paix, sa magnanimité, son désir de dignité morale? Si un homme du peuple accomplit une belle action en temps ordinaire, ou nous l'enraillons, ou nous nous méfions de l'acte, ou bien encore nous en témoignons une admiration si étonnée que nos louanges ressemblent à des insultes. Nous avons l'air de trouver cela si extraordinaire. Pendant la guerre, tous les héroïsmes sont égaux. Un gentilhomme terrien et un paysan, quand ils combattaient en 1812, étaient plus près l'un de l'autre que chez eux dans leur village. La guerre permet à la masse de s'estimer elle-même. Voilà pourquoi le peuple aime la guerre. Il compose des chansons guerrières après le combat, et plus tard il écoute religieusement les récits de bataille. La guerre, à notre époque, est nécessaire. Sans la guerre, le monde tomberait dans la sanie. Je cessai de discuter. On ne discute pas avec des rêveurs. Mais voici qu'on recommence à se préoccuper de problèmes qui semblaient depuis longtemps résolus. Cela signifie quelque chose. Et le plus curieux, c'est que cela a lieu partout en même temps.